Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Demain, l'iniquité de la terre sera effacée et le Seigneur du monde régnera sur nous. Alléluia. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent, mais c'est surtout cette année la vigile de la Nativité, puisque nous sommes aujourd'hui le 24 et demain sera le 25, fête de la Nativité de notre Seigneur. Il y a cette année donc cette coïncidence entre le dernier dimanche de l'Avent et la vigile de la Nativité. Et il se trouve, mes très chers frères, qu'il nous reste donc plus que moins d'un jour en réalité pour nous disposer nos cœurs à aller adorer le Christ, le Messie, né de la Bienheureuse Vierge Marie, dans l'étable de Bethléem. Il ne nous reste plus que quelques heures pour bien nous disposer. Sachons, avec l'aide du Saint-Esprit, encore grappiller quelque chose du temps de l'Avent pour nous préparer à la nativité de notre Seigneur, liturgiquement parlant. Alors, je vous propose aujourd'hui de regarder assez brièvement un aspect de la préface de l'Avent que nous avons dite tout au long de cet Avent. La préface de l'Avent, elle se trouve dans les missels en usage en France. Elle est empruntée au missel de l'Église de Paris du XVIIIe siècle. Et il se trouve que cette préface de l'Avent, qui est appropriée au temps de l'Avent, donc, renferme une sorte de trésor dogmatique que nous nous proposons, avec l'aide du Saint-Esprit, d'examiner. Alors, nos trois points pour ce sermon suivront les trois choses qui sont dites. Il est dit que notre Seigneur, lui dont la vérité instruirait les ignorants, dont la sainteté justifierait les impies et dont la force soutiendrait les faibles. Donc notre premier point traitera donc de première caractéristique de l'œuvre du Rédempteur. Il est le véritable. Le deuxième point examinera cette affirmation. Le Rédempteur est le saint. Et le troisième point, il est le fort. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Voici ce que dit la préface de l'Avent. Il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et c'est notre salut, de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui, nous parlons donc du Christ, lui, quand votre miséricorde et votre fidélité, vous avez promis comme sauveur au genre humain frappé de perdition. Lui, toujours le Christ, dont la vérité devait instruire les ignorants, la sainteté devait justifier les impies et dont la force soutiendrait les faibles. Maintenant donc qu'approche le moment où doit venir celui que vous allez envoyer, et que lui déjà dans le jour de notre délivrance, confiance en vos promesses, nous exultons de joie sainte, c'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec la troupe entière de l'armée céleste, nous chantons une hymne à votre gloire, redisant sans fin, Saint, 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 et le Seigneur Sabbat. Alors vous voyez mes très chers frères, dans cette très intéressante préface, comme le sont toutes les préfaces en réalité, nous disons trois choses, ou l'Église nous fait confesser trois choses à propos du Messie, c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose, c'est que il est dit, lui dont la vérité instruirait les ignorants, doit instruire les ignorants. Arrêtons-nous quelques instants sur ce premier point. Lui dont la vérité devait instruire les ignorants. Il y a deux choses à considérer à propos de la vérité, mes très chers frères, et vous allez voir que nous allons parler de l'Ancien et du Nouveau Testament. La vérité, notre Seigneur a dit à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », et vous savez ce que Pilate a répondu, il a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» et il est sorti pour continuer ses affaires. Notre Seigneur est venu rendre témoignage à la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'avant lui, personne n'avait jamais connu de vérité ? L'évidence est non, bien entendu. Et pourtant, notre Seigneur, sa vérité devait instruire les ignorants. Qu'est-ce que ça signifie ? Il y a deux choses à considérer lorsque nous parlons de la vérité. Et quand nous parlons de vérité, nous ne parlons pas des vérités telles que le ciel est bleu ou de fond 4. Ça, ce sont des vérités d'ordre naturel qui sont une image de la vérité surnaturelle. Mais nous parlons de la vérité révélée, de la vérité de la religion. La loi de Moïse, c'est la vérité révélée. qu'est-ce que nous apprenons par la loi de Moïse? Quand je dis la loi de Moïse, c'est les livres de l'Ancien Testament en général, les cinq premiers et tous les autres. Dans la loi de Moïse, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons un grand nombre de vérités qui sont révélées. Nous apprenons l'histoire de la création du monde par Dieu en six jours. Nous apprenons l'histoire de la chute de nos premiers parents. Nous apprenons l'histoire des patriarches, spécialement le premier d'entre eux, Abraham, qui a reçu la promesse que le Messie naîtrait de sa postérité. Nous obtenons aussi de la loi de Moïse des instructions sur la sainteté et sur l'impureté. Moïse a appris aux enfants d'Israël à distinguer entre ce qui était pur et ce qui était impur. Nous apprenons aussi dans la loi de Moïse des vérités sur l'expiation par le sang sacrificiel. Et nous apprenons qu'il ne peut y avoir de pardon que grâce au sang versé. Ce sont des vérités, ce sont là des vérités révélées, mes très chers frères, et je dirais même que c'est le dépôt de la nation, du peuple d'Israël. C'est à lui qu'a été donné les promesses, a été donné les textes saints, les Écritures, et tout ceci, c'est la vérité. Nous y croyons fermement, parce que l'Église nous donne à croire tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont écrit, le psalmiste, etc., ont écrit. Maintenant, ce sont des vérités. Or, il est dit que la vérité du Messie devait instruire les ignorants. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a d'une part la vérité, les vérités qui sont des révélations vraies que Dieu a faites à l'Église, à son peuple. Et d'un autre côté, il y a le Messie. C'est la deuxième chose à considérer dans le Messie en tant que vérité. Le Messie, c'est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, fait chair pour nous les hommes et pour notre salut. C'est celui qui a réalisé les vérités qui étaient enseignées par Moïse, mais sous un aspect uniquement figuratif. Lorsque notre Seigneur est venu, il a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Grâce à Moïse, nous connaissions la vérité. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité a été réalisée au sens propre du terme, pas dans le sens de prendre conscience des choses, ce qui est un anglicisme, mais réaliser, c'est-à-dire rendre réel, rendre parfait quelque chose qui est théorique. Quand on réalise un projet, l'architecte dessine des plans et les ouvriers réalisent le projet, de telle sorte que ce qui était dans l'esprit de l'architecte est devenu une maison réelle dans laquelle on peut habiter. Le Messie est donc celui qui réalise les vérités figuratives de l'Ancien Testament. Et alors là, nous pourrions faire une liste presque infinie, pas infinie, mais enfin une grande liste de tout ce que notre Seigneur est en vrai, accomplissant les figures qui le préfigurait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait un agneau à Pâques. Notre Seigneur est l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons, pour citer juste quelques exemples, nous voyons un des patriarches, un des 12 patriarches du peuple d'Israël, Joseph, dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob. Eh bien, il a été trahi par ses frères, il a été vendu par ses frères, il a été emmené captif, il a été livré aux païens, il a été esclave des païens, et ensuite, il se trouve qu'il est sorti de sa prison et il est devenu la première personne la plus puissante en Égypte après le pharaon, après le roi d'Égypte. Donc c'est bien sûr une figure dans cette histoire, c'est une figure extraordinairement claire de notre Seigneur qui a été trahi par ses frères, qui a été trahi par son peuple, qui a été livré aux païens pour être tué. Et il se trouve qu'il est devenu le roi des nations, il est devenu le roi de l'Église et tous les peuples de la terre se sont soumis à sa royauté. Nous pourrions encore dire d'autres choses, nous pourrions parler de Samson, nous pourrions parler de David, etc. Mais d'une part, vous connaissez ces choses, mes frères, et puis d'un autre côté, nous avons encore d'autres choses à dire. Alors, je vous renvoie au bon livre qui traite de tout ceci en détail. Notre Seigneur, le Messie, n'a pas, comme Moïse, révélé des vérités, il a accompli ce que nous croyons déjà être des vérités. Il est, notre Seigneur, il est, si l'on peut dire, l'œuvre de la foi de nos pères. Saint Jacques dit, sans la foi, sans les œuvres, la foi est vaine. À quoi sert-il de croire si on n'obéit pas à Dieu? Notre Seigneur, les patriarches ont cru à Dieu, ont cru que Dieu leur enverrait le Messie, et notre Seigneur est le Messie qui a été envoyé, qui est venu et qui a réalisé la foi des patriarches. Les patriarches ont été justifiés, en quelque sorte, de leur foi par le fait que notre Seigneur est véritablement venu. S'il n'était jamais venu, on aurait pu dire tous ces gens-là ont cru en vain, ils ont cru quelque chose, mais en fait, ça ne s'est jamais réalisé. L'Écriture nous dit que notre Seigneur est l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous avons déjà cité ce verset, je crois, il n'y a pas si longtemps, dans un dimanche de l'Avent. Disons juste un mot sur ce que ça signifie. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tout d'abord, il est l'auteur. Notre foi, la foi, qu'est-ce que c'est? Quand on dit au catéchisme, on dit qu'est-ce que la foi? La foi consiste à croire tout ce que l'Église nous enseigne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc., etc. Ça, c'est la foi que l'on croit. Maintenant, la foi par laquelle on croit est un don de Dieu, et ce don de Dieu qui nous est donné a pour auteur, c'est-à-dire pour celui qui le fait, qui nous le donne, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y a dans la foi du chrétien, des chrétiens, il y a quelque chose de comparable à l'Eucharistie. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est un sacrement par lequel la grâce de Dieu nous est donnée. Mais il a ceci de particulier que celui qui nous donne la grâce est celui qui, voilé sous les apparences du sacrement, est lui-même le sacrement. Le baptême, par l'eau, nous donne la grâce de la régénération. Le sacrement, par la communion, la Sainte Hostie, que nous recevons, c'est non seulement un moyen pour recevoir la grâce, mais c'est l'auteur même de la grâce qui se donne à nous. Il est donc l'auteur de notre foi, il nous donne la foi, qui est un don de Dieu, je le rappelle, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait croire à son sacrifice. Il y a des choses qui, pour les chrétiens, sont des évidences auxquelles ils ne pensent presque plus, mais de temps en temps, il faut se souvenir, pour être reconnaissant, qu'il y a un grand nombre d'hommes qui ne croient pas du tout ce que nous croyons, et même qui refusent de le croire. Pourquoi? Disons-le simplement, parce qu'ils sont méchants, c'est vrai, mais parce qu'eux aussi, ils n'ont pas reçu le don que nous avons reçu. Pourquoi croyons-nous au sacrifice de notre Seigneur? C'est parce que nous avons reçu la foi. La foi se reçoit d'une façon très spéciale par le baptême. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés et qui croient, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient baptisés. Voyez-vous? Mais quand on a le baptême, on a reçu les vertus de foi, d'espérance et de charité, et il se trouve qu'un chrétien, un baptisé, qui ne croit pas ce qu'enseigne l'Église, c'est quelqu'un qui piétine un don qu'il a reçu. C'est une chose horrible, c'est un spectacle encore plus horrible que les malheureux païens qui ne croient pas ce que nous croyons parce que Dieu ne les a pas encore éclairés. Donc, Dieu nous donne la foi, le Christ nous fait croire à son sacrifice, et vous voyez, nous croyons dans le Christ, qui est lui-même l'objet de notre foi, d'une façon très différente des musulmans, par exemple. Les juifs ne croient pas dans le Christ, ils le refusent, ils disent que ce n'est pas le Messie, ils ne veulent pas entendre parler de lui. Les musulmans disent qu'ils respectent notre Seigneur, et même dans leur faux livre, ils ont écrit son nom en disant qu'il est vraiment né de la Vierge Marie, etc. Alors tant mieux, c'est bien, ça vaut mieux que de dire des mensonges sur lui, mais ils disent qu'il n'est pas Dieu, et il n'est pas mort sur la croix. Voyez-vous? Donc, quand on honore le Christ comme le font les malheureux musulmans, on l'honore en vain, parce qu'on n'honore pas le vrai Christ. C'est pour ça que notre Seigneur des musulmans n'est pas notre Seigneur. Et même, si l'on peut dire, on blasphème. À quoi bon dire notre Seigneur est un très grand prophète, mais il n'est pas mort sur la croix et il n'est pas mort pour expier nos péchés? Ne vaudrait-il mieux pas ne pas croire en lui tout court? Alors, il ne s'agit pas d'un choix à faire ici, mais il se trouve que c'est un blasphème que d'honorer notre Seigneur pour des mauvaises raisons et en allant contre l'orthodoxie de la foi. Maintenant, il n'y a pas que les musulmans, il n'y a pas que les juifs, il y a aussi les mauvais chrétiens. Il y a les chrétiens qui croient de façon orthodoxe, c'est-à-dire qui croient tout ce que l'Église catholique nous enseigne, et c'est très bien, c'est le minimum, mais qu'est-ce qu'on trouve chez eux? On trouve aussi chez eux, eh bien, le fait qu'ils n'aiment pas l'auteur de notre statut. C'est-à-dire qu'ils croient tout ce que l'Église enseigne, mais ils n'aiment pas notre Seigneur Jésus-Christ. L'honneur qu'ils rendent à notre Seigneur est donc un honneur orthodoxe, mais il est stérile et surtout il est ingrat. C'est-à-dire qu'ils croient, mais ça ne leur sert à rien. Ils ont reçu la grâce au baptême et ils ne l'utilisent pas. C'est une ingratitude. Voilà comment notre Seigneur, voilà ce qu'on peut, quelques mots qu'on peut dire sur notre Seigneur en tant qu'auteur de notre foi. Il est vraiment celui qui fait que nous croyons ce que nous croyons. Et si nous croyons tout ce que l'Église nous enseigne, c'est parce que notre Seigneur a formé en nous la foi. Maintenant, il est aussi le consommateur de notre foi. Alors ce mot, évidemment, en modernité, a un sens tout à fait différent. Le consommateur, c'est celui qui rend parfait, celui qui accomplit, celui qui fait atteindre sa perfection à la foi. C'est celui qui mène notre foi à son terme. Comme les patriarches, nous croyons en un Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Nous croyons aussi en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, etc. Nous croyons tout, mais à quoi servirait-il de croire même que notre Seigneur est venu sur la terre il y a 2000 ans, qu'il a versé son sang pour nous, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, si cela ne nous est pas appliqué pour nous, si ce n'est pas concrète, si ce n'est pas réel pour nous. Voyez-vous, mes très chers frères, il faut non seulement que nous croyions à notre Seigneur, et c'est lui qui fait que nous croyons en lui, mais encore il faut que lui-même fasse que notre foi en lui porte ses fruits. Notre Seigneur est parfois comparé à un jardinier qui plante une graine, qui plante un arbre, qui l'arrose, qui le taille, qui le protège contre les bêtes qui voudraient le manger, etc., et qui, à un certain moment, recueille les fruits de cet arbre. Les jardiniers ne plantent pas des arbres uniquement pour faire joli, ils plantent des arbres, ils plantent des vergers, afin de pouvoir en retirer des fruits. Notre Seigneur nous donne la foi, afin que notre foi porte son fruit. Et quel est le fruit ultime de la foi? La vision béatifique, c'est-à-dire l'union à Dieu dans l'éternité. Chose qui paraît peu de choses aux yeux des mondains qui voudraient quelque chose de plus substantiel. En réalité, quand on a ça, on a tout. Et même, on commence à avoir des choses de cet ordre-là, ici-bas. Je ne parle pas des visions, des choses comme ça. Je parle simplement de la paix avec Dieu, de la force dans son devoir d'État, de cette communion avec Dieu qui est le propre des enfants de Dieu. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, le Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Maintenant, pour estimer cette réalisation de la volonté salvifique de Dieu sur nous, nous devons comprendre quelque chose qui est dit dans la préface. Je vous rappelle ce qui est dit. « Cuius veritas instruiret incios » et dont la vérité instruirait les ignorants. Et ces ignorants, la préface dit aussi « Quem perdito hominum generi » lui, quand votre miséricorde et votre fidélité, vous avez promis comme sauveur au genre humain frappé de perdition. Parfois, les modernes traduisent « au genre humain en perdition » comme si le genre humain était en risque de se perdre. Le genre humain est perdu, il est véritablement perdu. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont mangé du fruit interdit, c'était fini, l'histoire est terminée, c'est terminé là. Mais notre Seigneur n'a pas voulu que la chose en reste là, il a pourvu à un sauveur. Mais il a pourvu à un sauveur, à un genre humain, c'est-à-dire à notre genre humain, à la race humaine, perdu. Tant que nous ne comprenons pas comment et à quel point l'homme est perdu, à quel point la révolte de nos premiers parents nous a tous précipités dans la mort, en nous séparant de Dieu, alors, tant que nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons pas à quel point notre Rédempteur est un grand Sauveur qui vient et, en nous donnant la foi, nous donne aussi de la réaliser dans l'éternité, après notre mort, évidemment. Voyez-vous, mes très chers frères, nous sommes perdus et nous avons un Sauveur. Ce Sauveur vient et éclaire les ignorants. C'est pour ça qu'il est écrit, revenons au mot qui nous intéresse, dont la vérité devait instruire les ignorants. Nous avons dit un mot de la vérité, maintenant disons un mot de notre ignorance. Nous sommes perdus en tant que genre humain, nous sommes aussi ignorants. Nous sommes ignorants, voyez-vous mes très chers frères, tant que nous n'aimons pas Dieu. Parce que ce type d'ignorance, c'est pas le fait de ne pas connaître son catéchisme. N'importe qui peut lire le catéchisme, peut l'apprendre par cœur, et il le sait, donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui ignore son catéchisme. C'est quelqu'un qui n'est pas ignorant, qui n'est plus ignorant. Et pourtant, tant que cette personne n'aime pas le Dieu dont elle a appris les vérités dans le catéchisme, cette personne reste un ignorant. Voyez-vous, mes très chers frères, la manifestation de cette séparation d'avec Dieu, qui produit l'ignorance, c'est la concupiscence, qui est cet amour désordonné que nous portons à nous-mêmes. Nous préférons, même si nous le connaissons théoriquement, nous préférons ne pas aimer Dieu pour ne pas avoir à lui obéir, parce que lui obéir demande des efforts de notre part. La concupiscence, qui est donc cet amour désordonné de nous-mêmes, fait que nous n'aimons pas Dieu. Or, nous sommes faits pour aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, il nous faut, premièrement, la foi. Ensuite, il nous faut la connaissance de Dieu par l'Écriture sainte. Nous en avons parlé, au début de cet avant, si vous vous souvenez bien. Et il nous faut aussi, parce que les deux premiers pourraient rester stériles, il nous faut, troisièmement, l'obéissance fidèle. Si nous aimons Dieu, nous le connaissons donc, parce qu'on ne peut pas aimer sans connaître, et si on l'aime, alors on lui obéit. Le Christ, en tant que vérité, est donc l'agent de notre salut, qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous arrache à l'amour de nos propres ténèbres, et qui nous transforme en lui. Voilà comment le Messie, la vérité dont sa vérité doit instruire les ignorants. Maintenant, passons à la deuxième chose, dont la sainteté justifierait les impies. Et pour ceux qui sont un peu théologiens, je dirais qu'il y a un paradoxe dans cette affirmation. Le chrétien, en tant que globalement connaissant la religion, en tant qu'il connaît globalement la religion, ne voit pas de problème dans cette phrase « lui dont la sainteté devait justifier les impies ». Mais quand on examine théologiquement cette phrase, on s'aperçoit qu'il y a un grand paradoxe. En réalité, la sainteté signifie la séparation. Soyez saints comme je suis saint, c'est-à-dire soyez séparés des peuples païens. Dieu est saint, or la sainteté de Dieu le rend incompatible avec la fréquentation des pécheurs que nous sommes. Comment se peut-il que sa sainteté puisse justifier les impies? Au contraire, sa sainteté devrait plutôt le séparer des impies pour l'éternité, de telle sorte que les impies sont tout seuls dans leur coin, c'est-à-dire dans l'enfer, et Dieu et dans sa sainteté, loin du péché. Et pourtant, du Messie, la sainteté devait justifier les impies. Comment ça se comprend? Dieu a horreur du péché. Vous le savez très bien, mes très chers frères, et il a aussi horreur de celui qui commet le péché. On dit souvent que Dieu, il faut aimer le pécheur et détester le péché, ce qui est vrai, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que si tout pécheur peut être distingué de son péché, tant que le pécheur est un pécheur et qu'il n'est pas un juste, son péché ne fait qu'un avec lui. Et donc Dieu le considère comme un être pécheur, donc comme quelque chose qu'il ne peut pas aimer puisqu'il n'aime que la sainteté. Dieu est saint. Le Fils de Dieu est saint. La sainteté du Fils de Dieu vient de son égalité avec Dieu. Le Fils éternel de Dieu est vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, engendré, non créé. Donc il est Dieu. Le Fils de Dieu est saint, comme son Père est saint, comme le Saint-Esprit est saint. Maintenant, l'innocence de l'homme qu'est le Messie, parce que le Messie est vrai Dieu et vrai homme, l'innocence de l'homme né de la très sainte Vierge Marie tient aussi de la sainteté du Fils éternel de Dieu en tant que Dieu. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici un peu difficile à expliquer, mais très important à comprendre. La sainteté de Dieu ne peut que condamner les pécheurs. Mais le Christ, le Dieu homme, offre en sacrifice son innocence, qui provient de sa sainteté, volontairement et gratuitement, pour la rédemption des pécheurs. Si le Verbe éternel de Dieu ne s'était pas incarné, sa sainteté n'aurait pu que nous condamner. Mais comme il s'est incarné, sa sainteté peut nous justifier. Le Christ, c'est une chose très connue des chrétiens, et le Christ est à la fois le prêtre et la victime. Il est à la fois le sacrificateur qui offre l'agneau, et il est l'agneau qui est offert par le sacrificateur. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'offre lui-même à son Père. Il est à la fois prêtre et victime. Or, l'orgueil de l'homme voudrait se réconcilier ou se concilier Dieu par les œuvres tirées de son propre fond. Nous aimerions pouvoir dire à Dieu, voilà, j'ai fait des efforts par moi-même, vous disiez qu'il fallait que je vous aime et j'ai essayé de vous aimer, vous disiez qu'il fallait que je vous obéisse, eh bien, j'ai fait des gros efforts, je vous ai obéi, maintenant, vous devriez être content avec moi. C'est impossible. C'est impossible parce que, à cause de la chute de nos premiers parents, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Tout s'oppose à l'obéissance à Dieu en nous. Or, s'il faut faire des efforts, nous ne pouvons les faire que par la grâce de Dieu. Or, quand nous faisons des efforts avec la grâce de Dieu, ce sont de vrais efforts que Dieu récompense, mais Dieu, en récompensant nos efforts, récompense sa propre grâce agissant en nous. Il y a quelque chose de vexant pour l'homme pécheur qui s'aime lui-même et qui croit être juste. Il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Quand je dis pauvres pécheurs, évidemment, c'est en référence à l'Ave Maria où nous disons « Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort ». Sans l'incarnation, le Verbe divin ne pouvait pas nous sauver. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est la suivante. Pourquoi tant de complications? Est-ce que Dieu ne peut pas nous sauver? Je suis un papa, je suis une maman. Quand mon petit enfant fait une bêtise, il me demande pardon, je lui pardonne. Je ne vais pas lui faire tout un truc alambiqué pour arriver au pardon. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un comme nous. Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. Donc les rapports que nous avons entre créatures, fût-ce entre parents et enfants, sont des rapports qui sont entre créatures de même nature, j'allais dire égale par la nature, c'est-à-dire de même nature. Il n'y a pas une différence absolue, essentielle, entre les parents et les enfants. Nous sommes tous des êtres humains. Maintenant, il y a une différence absolue entre Dieu et la créature. La créature est justement tout ce que Dieu n'est pas, puisque seul Dieu est peut-être Dieu. Dieu ne peut pas créer un Dieu. Il ne peut que engendrer et produire au sein de la Très-Sainte Trinité, mais c'est tout à fait autre chose. Sans l'incarnation, disons-nous, Dieu ne pourrait pas nous pécher. Dieu ne pourrait pas dire « Allez, je vais pardonner à Adam et Ève, finalement c'est pas très grave. Allez, j'oublie tout. » C'est impossible. Pourquoi? Justement parce que Dieu est saint. Et que Dieu ne peut pas prendre une liberté vis-à-vis de lui-même en contredisant une caractéristique fondamentale de ce qu'il est. Il est saint, il est exclusif de tout péché. Nous pourrions dire bien des choses encore, mais il est saint, il ne peut pas nous pardonner. Si Dieu nous pardonnait sans exiger le versement du sang innocent de son Fils, il se ferait tort à lui-même, c'est comme s'il pouvait pécher contre lui-même, s'il péchait contre sa sainteté. Je vais donner un exemple quand même pour faire comprendre à quel point Dieu ne peut pas nous pardonner autrement que par le sacrifice du Christ. Imaginez que vous avez dans votre maison un vase très beau, un vase de Chine, porcelaine, très très rare, très très cher, qui vous vient de vos parents, de vos ancêtres, que sais-je. Et il se trouve qu'un de vos enfants joue et fait un peu des bêtises et il casse le vase. Vous allez bien sûr être assez triste, vous allez être mécontent, vous allez être triste parce que c'est un beau souvenir de famille qui s'est cassé, vous allez être mécontent parce que c'est quelque chose de très cher qui peut-être aurait pu être vendu et rapporter de l'argent à la famille, et puis aussi vous allez être fâché parce que l'enfant a fait une bêtise et il a cassé le vase et les enfants ne doivent pas faire de bêtises et ils ne doivent pas casser des choses. Mais ce que vous pouvez dire, allez, c'est pas bien grave, je lui pardonne, je donne une petite punition, même une grosse punition, mais sans, les choses en restent là. Bon, pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas faire pareil? Parce qu'il y a d'autres exemples où c'est impossible. Mettons qu'il y ait un roi, pour ne pas parler d'un père de famille, parce que à notre époque c'est moins compréhensible, mais disons qu'un roi, ce qui est un père de famille très, très, très élevé, un roi, imaginez qu'il y ait donc un roi qui est assis sur son trône avec sa couronne, son sceptre, il est en audience. Il y a quelqu'un qui vient et qui, par exemple, lui donne une gifle. Si quelqu'un vous donne une gifle dans la rue, vous pouvez dire « ça ne me fait rien ». Tant pis pour lui, c'est un malotru qui m'a giflé, grand bien lui fasse, que Dieu lui pardonne, ça ne me fait rien. Mais si vous êtes investi d'une dignité qui ne vous appartient pas individuellement, si vous êtes roi, la royauté est sur vous, mais vous n'êtes pas un particulier, quelqu'un qui peut faire ce qu'il veut. Si quelqu'un vient et donne une gifle au roi, même si le roi est l'homme le plus patient, le plus humble, le meilleur du monde, celui qui pardonne facilement, il ne peut pas pardonner officiellement à ce qui a été fait sans exiger une réparation sans exiger un châtiment. Parce que la dignité royale exige que tout le monde la respecte tout le temps. Et si quelqu'un ne la respecte pas, il y a quelque chose de très grave qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va dire qu'en fait, on peut faire n'importe quoi au roi parce que ce n'est pas grave. C'est très grave de gifler le roi ou de lui faire une injure, etc. Donc, il faut nécessairement que cette personne qui l'a fait soit punie. Ça donne une certaine idée de l'impossibilité pour Dieu de nous pardonner autrement que par le sacrifice du Christ. Si Dieu disait « Oh, Adam et Ève, ce n'est pas grave, leur péché, leur désobéissance n'est pas grave », alors ça voudrait dire que désobéir à Dieu n'a aucune espèce d'importance. Mais c'est impossible, c'est faux, c'est totalement faux. Et si Dieu était tellement bon qu'il se le disait, il ne serait plus Dieu puisqu'il dirait quelque chose de faux. Il pécherait contre lui-même. Alors, c'est pour ça que le péché originel est quelque chose d'extrêmement grave, aux conséquences catastrophiques et extrêmement importantes. Or, vous allez dire, oui, mais Dieu nous a pardonné. N'oublions jamais, mes très chers frères, qu'il nous a pardonné grâce au sacrifice du Christ. Les musulmans, leur Dieu leur pardonne leur péché comme ça parce qu'il est bon, parce qu'il sait que les hommes sont pécheurs et qu'ils sont faibles. Ce qui fait que, sans vouloir taper sur les musulmans, mais ce qui fait qu'il y a dans cette religion où il n'y a aucune expiation, il y a quelque chose d'étrange qui... Enfin, il y a quand même un faciès étrange. Alors, sans entrer dans les détails et sans taper gratuitement sur les gens. Revenons dans le christianisme. Si Dieu nous a pardonné, et Dieu nous a pardonné entièrement tous nos péchés, et il peut encore le faire par le sacrement de confession, heureusement, par la grâce de Dieu... C'est uniquement par la vertu du sacrifice de son fils vrai Dieu et vrai homme, homme innocent parce que vrai Dieu saint. Si la sainteté de Dieu ne s'était pas communiquée à l'humanité du Verbe et ne lui donnait pas cette caractéristique d'innocence, nous ne pourrions pas être pardonnés par Dieu. Pour être pardonnés par Dieu, il faudrait que nous puissions défaire ce que nous avons fait en la personne de nos premiers parents. Seul le Christ, l'homme innocent, a pu s'offrir volontairement en sacrifice à Dieu, a pu mourir, lui qui n'avait pas besoin de mourir, parce qu'il n'était pas, il n'avait jamais péché, il était exempt de tout péché. Il a pu s'offrir lui-même en tant que sacrifice agréable à Dieu, et donc ainsi... obtenir la compensation pour le péché de nos premiers parents. Il faut bien le méditer, ce n'est pas des choses qui sont forcément faciles à saisir de la première fois, mais ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, mes très chers frères. Je dis simplement que nous devons comprendre à quel point il y a un paradoxe dans ces paroles, lui dont la sainteté devait justifier les impies. Toute la bonté, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu se manifeste dans cette phrase. Et il y a une maxime qu'on retrouve souvent chez les auteurs spirituels, c'est qu'ils disent « si le salut est totalement gratuit pour nous, il a été extrêmement coûteux pour Dieu, parce qu'il lui a coûté son Fils unique. » Alors évidemment, son Fils unique est ressuscité parce qu'il est vrai Dieu. Mais justement, c'est quelque chose qu'il a fait volontairement, parce qu'il n'avait pas besoin de mourir et de ressusciter. Donc vous voyez, mes très chers frères, pour comprendre l'efficace de la sainteté du Christ, il nous faut savoir ce que signifient les impies, lui dont la sainteté justifierait les impies. Les impies, c'est nous, évidemment, c'est nous, c'est ce que nous étions par nature, et c'est ce que nous sommes parfois quand nous laissons aller au péché. L'impie, qu'est-ce que c'est? On va dire l'impie, c'est celui qui est sacrilège, c'est celui qui ne veut pas croire, etc. C'est vrai. Mais l'impie, c'est aussi, et fondamentalement, celui qui sème soi-même avant d'aimer Dieu. Tous les péchés, toutes les impiétés, tous les crimes les plus monstrueux ont tous cette racine qui est que je veux faire ma volonté et non pas la volonté de Dieu. L'amour de soi, l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour de soi-même en réalité, nous dit l'Écriture, est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire c'est un état de c'est le contraire de l'amitié de Dieu. L'impiété, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrogance du coupable. Quand on dit « oui, je suis pécheur, et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» C'est l'arrogance du coupable aussi. L'impiété, c'est aussi le mépris vis-à-vis de Dieu et de sa loi. Dieu m'a demandé d'obéir à ceci, tu ne voleras pas, et moi j'ai envie de voler. C'est de l'impiété. L'impiété, c'est aussi, et c'est peut-être la chose la pire, une certaine condescendance, dans le mauvais sens du terme, une certaine condescendance vis-à-vis du moyen unique de notre rédemption qui exige l'humilité. Je veux bien expier mes péchés, mais qu'on ne me dise pas que le Christ a tout fait pour moi et que moi je dois simplement être mis au bénéfice de ses mérites. Et alors, qu'est-ce que je deviens, moi ? Et alors, j'ai une certaine fierté vis-à-vis de Dieu. Notre fierté vis-à-vis de Dieu s'évanouira comme une petite brume au soleil, au jour du jugement dernier. Quand, tant que nous vivons ici-bas, nous pouvons nous dire, après tout, si je fais des efforts, Dieu va voir que je suis bien disposé, on peut vivre dans l'illusion. Mais quand nous verrons la sainteté de Dieu, nous comprendrons qu'il n'y a que dans le Christ, in Christo, dans le Christ, que nous pouvons nous réfugier pour échapper à l'éclat terrible de sa lumière qui est comme un feu dévorant pour les impies. Et quand nous nous cachons dans le Christ, nous sommes transformés par lui, nous sommes comme digérés, dans le bon sens du terme, par lui, et nous devenons tel qu'il est. C'est Saint Jean qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas une invention. C'est Saint Jean, tel qu'il est, nous serons aussi, nous sommes aussi. Voyez-vous, mes très chers frères, nous devons avoir simplement l'humilité de reconnaître que nous sommes nés pécheurs, marqués par le péché originel, nous naissons impies, dans le fond. Et pour nous arracher à notre état naturel de séparation d'avec Dieu, eh bien, c'est le Saint de Dieu lui-même, tout solus sanctus, vous seul êtes saint, et sa volonté expresse de nous sauver qui ont été nécessaires, sinon nous ne pouvons pas être sauvés. Voilà comment, paradoxalement, mais d'une façon infiniment miséricordieuse, la sainteté du Christ justifie les impies. Et terminons avec la troisième caractéristique dont nous parle cette préface, lui dont la force devait soutenir les faibles. Voilà quelque chose d'infiniment réconfortant pour ceux qui ont intégré les deux premiers points. Lui dont la vérité devait instruire les ignorants, lui dont la sainteté devait justifier les impies, lui dont la force devait soutenir les faibles. Dans l'Écriture, Dieu est appelé le Dieu fort. Il y a toutes sortes d'attributs de Dieu, notamment la force. Qu'est-ce que c'est que cette force de Dieu ? Les théologiens nous disent que c'est une toute-puissance invincible, mais elle est ordonnée. Il y a plusieurs choses dans la nature qui nous font prendre conscience, disons, de la force de Dieu. Par exemple, les tempêtes, les inondations, les incendies, ces choses catastrophiques, quand on voit des montagnes qui s'effondrent, quand on voit la pluie qui tombe au point que l'eau monte en un instant, etc. Ce sont des images tirées de la nature qui nous font comprendre comment Dieu est tout-puissant et il peut tout détruire s'il le veut. Mais il n'y a pas que cette force-là dans la nature. Il y a encore d'autres images dans la nature qui nous font prendre connaissance de la force de Dieu. Souvent, on voit dans le béton, par exemple, une plaque de béton, et au milieu, on voit un petit arbre qui est en train de pousser. Et ce petit arbre, si vous le laissez pousser, eh bien, à un certain moment, il grandit, et il casse. Et c'est pour ça qu'on fait attention, quand on met des pierres, on met du béton, on fait attention d'enlever toujours les plantes, parce que finalement, à la fin, les plantes finissent par casser même la pierre la plus dure. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la plante une force qui est plus forte que l'inertie des pierres. Vous voyez, il y a dans cette force-là une image de l'aspect patient et invincible de Dieu, et spécialement de Dieu le Rédempteur. Alors, oublions maintenant les plantes et le béton, mais il y a cet aspect tout-puissant de Dieu qui, lorsqu'il veut sauver, n'est pas violent, il est patient. Il est patient comme cette plante qui finit par faire craquer le béton. La volonté de Dieu est invincible. Tout ce que le Christ veut, il le réalise. S'il veut sauver quelqu'un, même si cette personne fuit loin de lui, comme Jonas qui fuyait devant la face de Dieu et qui voulait partir en Espagne en bateau pour ne pas aller à Ninive prêcher la repentance, eh bien, Dieu le rattrapera. Il fera que son bateau traverse une tempête terrible. Il fera qu'il soit jeté par-dessus bord. Il fera qu'il sera avalé par un gros poisson, par une baleine. Et il fera aussi qu'au fond, dans l'estomac de ce monstre, eh bien, il lui demandera pardon. Et ce monstre ira le rejeter sur le littoral de la mer, de telle sorte qu'il ira enfin faire ce que Dieu veut. La volonté de Dieu est invincible. Ce que le Christ veut, eh bien, il le réalise toujours. Si ce n'était pas vrai, mes très chers frères, nous serions les plus malheureux et les plus misérables des hommes. Si notre Dieu n'est pas capable de ce qu'il veut, mais alors nous ne pouvons avoir confiance en personne. Vous voyez ? Déjà, quand on est un enfant et puis qu'on a son papa, et sa maman aussi, mais surtout son papa, et puis qu'on voit que son papa est fort et que son papa, quand il veut faire quelque chose, il le réalise, ça donne, ça structure une confiance. Et c'est de là aussi qu'on prend l'idée concrète de la puissance de Dieu. Maintenant, si ce n'est pas vrai pour Dieu, alors ce n'est vrai pour personne, et nous sommes les plus malheureux des hommes. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, notre Dieu peut véritablement tout ce qu'il veut, et personne ne lui résiste, sa volonté est totalement irrésistible. Maintenant, la force de Dieu, je vous rappelle que nous voyons la phrase qui dit « Lui dont la force devait soutenir les faibles ». La force de Dieu est un attribut qui, pour le Dieu d'Aristote, est ou bien inconnu ou bien absurde. Nous n'allons pas parler des anciens philosophes ici, mais nous disons simplement que l'homme païen peut imaginer, le plus intelligent, peut imaginer un Dieu qui donne le premier mouvement au monde et ensuite qui est dans son monde et puis qui se désintéresse totalement de la création. Tel n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu non pas des philosophes, mais le Dieu des patriarches. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui se manifeste en tant que providence. Il y a une providence générale, il donne à manger aux petits du corbeau, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Il y a une providence particulière pour ceux qu'il veut sauver. La providence du Dieu rédempteur est la chose la plus merveilleuse qui puisse être envisagée dans le monde et qui puisse être expérimentée aussi dans le monde. Le Dieu rédempteur, les théologiens nous disent qu'il se surmonte lui-même, nous l'avons dit tout à l'heure, en satisfaisant à sa justice par l'amour qu'il porte à son fils, lequel réalise la nécessaire transaction entre Dieu et nous par son sacrifice. Scandale pour les juifs et folie pour les païens, comme dit saint Paul. En quoi consiste la faiblesse humaine ? La faiblesse humaine, si l'on peut dire, consiste en plein de choses, mais fondamentalement, comme l'impiété consiste dans l'amour de soi, la faiblesse humaine consiste, on n'y pense pas forcément, dans la mauvaise volonté. Cette mauvaise volonté, qu'on appelle volonté propre, mais du point de vue de Dieu c'est la mauvaise volonté, cette mauvaise volonté qui fait que spontanément, nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Quand bien même nous saurions que c'est bon, mais comme ce n'est pas nous qui avons décidé, eh bien nous n'avons pas envie. Nous sommes rebelles par nature, et c'est pour ça que nous sommes appelés enfants de colère, et que le baptême, justement, nous transporte du royaume des ténèbres à l'admirable lumière du Fils éternel de Dieu. Il se trouve, mes très chers frères, que la faiblesse de l'homme consiste essentiellement dans sa mauvaise volonté. Délivrez-nous de la mauvaise volonté, c'est ce que nous demandons dans les litanies. Je ne sais pas si vous avez fait attention à mala voluntate. Alors ça veut dire aussi la mauvaise volonté des gens, les gens qui nous veulent du mal, mais c'est aussi la nôtre. Délivrez-moi, Seigneur, de ma mauvaise volonté. Ça, c'est une très belle prière, extrêmement efficace. Si vous voulez une prière qui va tout droit dans l'oreille de Dieu et dans son cœur, Seigneur, délivrez-moi de ma mauvaise volonté. Ça, c'est une très belle prière. Donc, la faiblesse de l'homme consiste dans sa mauvaise volonté, plus que dans sa condition de créature. Après tout, une créature qui obéit à Dieu n'a pas tellement de problèmes, au moins théoriquement. La mauvaise volonté est le plus grand obstacle à la grâce. Le plus grand obstacle à la grâce, c'est cet amour de nous-mêmes jusqu'au mépris de Dieu qui a, comme dit notre père saint Augustin, a fondé la cité du monde, la cité de Babylone. Dieu vaincra tous ses ennemis, ça nous en sommes certains. Mais les ennemis de Dieu sont leurs plus grands bourreaux en réalité. Plus je résiste à Dieu, plus je me fais du mal à moi-même. Exactement comme un malade qui refuserait d'obéir au médecin, quand c'est un bon médecin évidemment, enfin Dieu est un bon médecin, un malade qui refuse d'obéir au médecin, il aggrave sa propre maladie par le fait qu'il ne veut pas faire ce qu'il faut pour être guéri. La même chose pour les méchants qui refusent d'obéir à Dieu. Et il est dit « lui dont la force devait soutenir les faibles ». Alors, en latin, « virtus adiuvaret infirmos ». Quand il est dit que Dieu nous aide, c'est pas qu'il nous donne un petit coup de pouce. Ça, c'est le dieu d'Aristote ou le dieu de Pélage qui donne des petits coups de pouce comme ça pour faire bouger les choses, et puis après vous vous débrouillez. C'est pas du tout ça. Quand il est dit que Dieu nous aide, et qu'il nous, par sa force, qu'il nous aide, ça veut dire qu'il nous communique par son Saint-Esprit, le Christ nous communique par le Saint-Esprit, la force ce qui fait qu'il est appelé force des martyrs dans les litanies du Saint-Nom de notre Seigneur. Force des martyrs. L'amour du Fils éternel pour le Père éternel est communiqué à ceux qui ont été arrachés par son sang, qui ont été rachetés par son sang, arrachés donc à la puissance du diable, rachetés par son sang, animés, aimés d'avance par le Père céleste. « Je puis tout par celui qui me fortifie », dit saint Paul. C'est dans notre faiblesse que la force divine s'accomplit. Donc ne nous imaginons pas que Dieu ne donne la force qu'à ceux qui sont forts. Au contraire, disons plutôt à Dieu, « Seigneur, vous me voyez dépourvu de toute force. » Et vous savez que c'est une oraison des dimanches après la Pentecôte. « Ô Dieu qui nous voyez dépourvu de toute force. Seigneur, je n'ai aucune force, soyez ma force. » Et c'est ainsi que nous devenons forts. « Sans moi, dit notre Seigneur, vous ne pouvez rien faire. » Alors, ça signifie, disent les théologiens, qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Tout faire dans notre état, tout faire pour nous sauver, tout faire pour correspondre à la volonté de Dieu. Voilà quelque chose de magnifique, mes très chers frères. Voilà quelque chose qui nous est promis. Et demain, quand notre Seigneur naîtra, liturgiquement, il est déjà venu, bien entendu, mais il naîtra, nous pourrons dire, Seigneur, tout ce que vous nous avez promis pendant l'Avent, maintenant réalisez-le, parce que vous l'avez promis. Voyez-vous ? Montrez-vous à nous tel que vous vous êtes annoncé à nous, et alors nous serons capables de vous contempler avec assurance. Et je termine par la magnifique oraison de la messe de la Vigile de la Nativité. Écoutez bien. « Ô Dieu, qui nous comblez de joie chaque année par l'attente de notre rédemption, faites que, recevant avec allégresse votre Fils unique qui vient nous racheter, nous puissions aussi le contempler avec assurance lorsqu'il viendra nous juger, Jésus-Christ votre Fils, etc. » Mes très chers frères, attendons de tout notre cœur la venue de notre Seigneur, demandons-lui tout ce qu'il nous a promis, et c'est ainsi qu'avec l'aide de ce même Seigneur, nous pourrons le regarder avec assurance lorsqu'il viendra pour nous juger, parce qu'il nous reconnaîtra comme sien, puisqu'il se reconnaîtra en nous-mêmes avec l'aide de sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.